Le jeu du roman ou du film, c'est de savoir comment le complot va rater. Et là, il tue Hitler dans un théâtre à Paris. Et quand je suis sorti là, j'étais vraiment fasciné. Je me disais, on a donc le droit de faire ça, quoi. Et je m'en voulais de pas m'être dit, bien sûr qu'on a le droit de faire ça. Et donc, enfin voilà, c'est vraiment pour moi, c'est un phare, et c'est ce que j'essaie de faire. C'est vraiment se dire que quand on écrit un roman historique, les choses avec lesquelles on n'a pas le droit de tricher, c'est le monde, c'est la vie quotidienne, c'est la description des rues, c'est le cadre dans lequel on se place. Par contre, comme le Lénine dans Les Démons de Paris, là, on peut s'amuser parce que on peut y aller parce que voilà, c'est le jeu et c'est le Hitler de Tarantino et s'amuser à maltraiter les personnages historiques et à les mettre dans des situations complètement nouvelles.
Oui, mais on ne sait pas si Hitler est vraiment mort. Christopher Priest disait il y a deux jours, quand on parlait du chrony nazi, qu'il avait six sosies, donc c'est peut-être un de ses sosies.
Avec Elvis Presley,
peut-être. En effet. Stéphane, tu te permets tout aussi, tu permets de mêler le comique au dramatique. Comment est-ce que c'est reçu par le lecteur, ça, tu sais déjà?
Oui. Alors d'abord, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit mon collègue. Donc lui, c'est dans le domaine historique. Et moi, je dirais exactement la même chose dans le domaine scientifique. C'est-à-dire que puisque mon roman se passe dans l'univers du cerveau, il y a une opération qui va se faire dans ce domaine-là. Bien sûr, je ne pouvais pas dire n'importe quoi non plus sur le côté scientifique de la chose. Après, moi, c'est vrai que mon intrigue est complètement impossible, du moins j'espère. Mais il me fallait ce cadre scientifique, donc je ne pouvais pas non plus raconter n'importe quoi. Maintenant, pour répondre à ta question, c'est la chose que mes lecteurs aiment beaucoup, c'est justement ce mélange d'émotions. C'est-à-dire qu'il y a le suspense, il y a les pleurs, il y a les rires, il y a des passages comiques, il y a des passages très pathétiques. Et je trouvais ça, en tant qu'écrivain, cette liberté-là, justement, d'injecter ça dans le thriller, justement.
Et il y a une fin à suspense, comme dans un vrai thriller.
Comme dans un vrai thriller, voilà.
Qui remet tout en question.
Oui.
Je voudrais te dire une petite chose, une anecdote, qui est les rares fois où c'est la réalité qui va cautionner la fiction. Avec mon camarade André-François Ruot, on a écrit une biographie d'Hercule Poirot. Et donc on a fait ça très sérieusement, avec quantité de recherche, etc. Et il y a une nouvelle d'Hercule Poirot, où l'inspecteur Hastings est là. Et durant la nouvelle, ils vont dans un restaurant qui s'appelle le Cheshire Cheese. Et Hastings prend une tourte au rognon. Bon. Et nous, on voulait dater la nouvelle. Donc, on était à l'affût dans la nouvelle d'Agatha Christie de tout élément qui pourrait donner une indication, vestimentaire, tout. Il n'y avait rien. Et il y avait ça, par contre. Donc, on a trouvé un guide Baedeker de Londres de l'époque, Baedeker étant le grand éditeur de guides touristiques de l'époque, je vois qu'on connaît. Et il y avait la liste des meilleurs restaurants. Et il y avait le Cheshire Cheese. Donc on a regardé et il était dit qu'on ne servait des tourtes au rognon que le samedi. Ce qui nous a permis de dater, grâce à la réalité, de donner du poids à une œuvre de fiction.
Ça, c'est très amusant, en effet. Ça t'est arrivé, ce genre de choses, Jean-Philippe, de voir la réalité rejoindre la fiction et l'accréditer, en fin de compte?
J'ai pas de...
forcément avec des rognons. Hein.
pas de kidney pie dans le Paris 19e ou dans le Japon d'aujourd'hui.
Non, mais c'est vrai que... Enfin, oui, ben... Enfin, moi, j'ai une autre anecdote. Enfin, à la limite, c'est l'anecdote inverse. C'est ma présidente Desnoyelles dans Les Démons de Paris. Donc, j'ai... quelque part, moi je faisais ça comme étant une façon de prévenir le lecteur dès les premiers chapitres qu'il allait avoir des grosses entorses avec la réalité historique. Donc je mets à la tête de la France, présidente du Conseil, une femme, Victoire Desnoyelles, donc bien sûr, qui n'est pas historique. Et une fois, donc je ne sais plus si c'était ici, mais enfin sur un salon, une lectrice vient me voir et m'a dit être allée chercher sur Wikipédia Victoire Desnoyelles pour connaître l'histoire de cette femme. Et du coup, voilà, donc c'est un peu l'inverse, c'est la fiction qui va bouleverser la réalité.
Ça se passe en quelle époque, les démons de Paris?
1910, hein, la belle époque. Quoi.
Des problèmes de ce genre, de réalité ou de vraisemblance, alors qu'on joue avec les dieux égyptiens, avec les années 30 et avec Anubis et Horus, est-ce qu'il y a quand même là des problèmes de réalité qu'il faut respecter?
Alors justement, là, c'est là où il faut particulièrement verrouiller son univers, parce que on est dans les années 30, donc là, il y a énormément de recherches, mais vraiment énormément de recherches, sur les lieux tels qu'ils étaient à l'époque, puisqu'on décrit des scènes, donc évidemment, on ne peut pas avoir des gens qui se promènent avec des portables, etc., etc. Et donc du coup, moi, je me suis vue, à un moment donné, dans le tome 1, il doit aller en chameau de tel endroit à tel endroit, mais bon sang, à quelle vitesse ça marche un chameau? Et donc raisonnablement, s'il part le matin au lever du soleil, à quelle heure il va arriver au milieu du désert? Et que voilà, je me suis trouvée aussi à faire des calculs à un moment donné dans le tome 3, lorsque Lasser quitte Alexandrie pour aller en Crète. Donc j'avais trouvé un super voilier qui a existé dans les années 30, qui est magnifique, je l'ai rebaptisé, mais enfin, j'avais toute la documentation technique du bateau en question, le tonnage, etc., etc., le tirant d'eau. Bon, il a fallu regarder à quelle allure pouvait naviguer ce bateau avec un vent par force pouet-pouet, quelles étaient les routes maritimes, et combien de temps il mettrait pour que ça soit... Il faut quand même qu'il y ait de la cohérence... Il faut également de la cohérence dans l'univers mythologique, parce qu'on utilise les dieux, etc. Alors bien, même si on les a dépeints en les caricaturant, ils sont réels, leurs rapports entre eux sont réels, entre Isis, Osiris, Horus, etc. Ils sont décrits tels que les Égyptiens les décrivaient à l'époque. Et donc du coup, on se retrouve là à avoir énormément de recherches pour que l'univers soit cohérent et tienne la route. Et ensuite, ce qu'on va imaginer, c'est toute l'action, les rapports, les dialogues, etc. Mais l'univers, lui, il est vraiment très, très fouillé et on est obligé de s'y tenir.
Combien de temps ça prend de forger la documentation pour ne pas contrevenir à la vérité scientifique quant à l'opération du cerveau, Stéphane?
Oui. Moi, je suis pas scientifique du tout, en plus. Ça m'a pris deux ans où j'ai lu des livres sur le cerveau, sur le thalamus. J'ai parlé avec des psychiatres, avec deux neurochirurgiens de Strasbourg, pour bien cerner pour avoir une espèce de matériau, ouais, comme tu disais. Et après, le plus difficile était de m'en dégager, justement, parce que je voulais pas faire un livre médical, c'était pas du tout le but. Donc après, il fallait un peu digérer tout ce matériau et l'injecter savamment dans l'intrigue, pour pas que ça fasse un roman médical, quoi.
Vous voyez que les écrivains méritent leur droit d'auteur. Jean-Philippe, là aussi, pour parler de Nostradamus ou pour parler de la France en 1910, ça exige une documentation sur la vie quotidienne, sur les événements historiques, etc. Tout ça doit être plus que vraisemblable, même si la présidente en 1910 n'était pas la vraie.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est là que le contrat avec le lecteur est important quand on écrit un roman historique. Mais je dirais justement, puisqu'on parle de mélange des genres, je pense que le but de l'auteur, justement, c'est de s'imprégner de la réalité, des faits historiques, et pour justement s'en extraire ensuite, hein, et ne pas les respecter, justement, et pouvoir jouer et introduire un autre genre, donc le fantastique pour mon cas, et savoir justement trouver quels sont les points fantastiques de la réalité pour pouvoir accrocher son histoire fantastique et diverger à ce moment-là, et que ce soit fluide pour le lecteur, et que ça s'embrouille dans son esprit, et qu'on s'amuse à la fin à pouvoir le montrer du doigt en disant « Je t'ai bien eu, tu sais plus ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai maintenant. »
Oui, mais tu as un canevas géographique sur la ville de Paris, sur
les
itinéraires qu'on peut faire, etc.
Je suis allé à Provence pour voir la maison de Nostradamus. Mais là, par exemple, c'est une déception énorme parce qu'ils ont fait un musée dans cette maison et il n'y a plus rien. Les pièces ne sont plus comme à l'époque. Le musée ne m'intéressait pas du tout. Je voulais savoir juste où était la cour, où étaient les portes. Et bon, ils ont tout changé. Donc on fait des choses comme ça, mais effectivement, de toute façon... Puisque dans tout roman, ce qui fait la crédibilité. Ce qui fait que, pas parce que le lecteur va aller vérifier, mais parce qu'on veut simplement qu'il rentre dans notre univers et qu'il le croit réel. Ce qui fait la réalité, c'est les petits détails, justement. Et donc, quand on parle des petits détails dans un roman historique, forcément, il faut s'être renseigné pour que ces petits détails soient réels. Mais à la limite, c'est, je dirais, c'est annexe, quoi. Ce qui est important, c'est l'histoire qu'on va raconter. Et effectivement, il faut faire le minimum de travail, mais qui prend un an et demi, qui est pour le lecteur qui va aller vérifier. Mais bon, c'est pas l'essentiel du boulot, quoi.
Vous savez ?
Oui, une petite chose pour en revenir justement au mélange des genres. Les genres, c'est aussi un domaine qui a une histoire, qui a des précédents, qui a des chefs-d'œuvre. Et donc, il faut savoir venir après et parfois aller contre, justement. Et par exemple, j'avais écrit un roman qui prenait comme personnage qui vient de ressortir Ganesha sur Joseph Merrick plutôt, Elephant Man. Et bon, tout le monde a connu Joseph Merrick par le film de David Lynch. Il faut bien avouer que personne ne le connaissait avant. Mais le film est tellement puissant et le sujet tellement fort qu'il a figé le personnage et l'ambiance et ce qu'était le médecin, Trives. D'ailleurs, quand on n'est pas scientifique, je fais un petit clin d'œil, c'est intéressant de voir la médecine et tout ça qu'on ne connaît pas. Il y a une vraie richesse d'invention. Et donc, je voulais écrire sur lui, mais évidemment, après David Lynch. Je ne pouvais pas faire semblant qu'il n'y avait pas eu David Lynch. Donc, je suis reparti depuis le début, accumulé de comme tous mes collègues de la doc, sur cet hôpital, l'hôpital de Whitechapel. Il y a Jack l'Éventreur à la même époque, C'est-à-dire que, par exemple, l'un des médecins de Merrick est l'un des médecins qui autopsie une des victimes de Jack l'Éventreur. Et pour me rendre compte que, par exemple, le docteur Trives, qui est mis en avant dans le film comme un humaniste et un bienfaiteur, était totalement indifférent à Merrick, que c'était juste c'est une sorte de montreur de foire, mais avec l'aval de la haute société. Et donc il a fallu tout reconstruire. Et justement, parfois, les genres sont tellement forts et tellement respectables qu'il faut aller contre eux pour peut-être, à sa mesure, les renouveler et les enrichir.
Mais je peux en revenir aussi un peu à ce boulot d'information. Dans American Gothic, tu inventes un personnage, mais tu l'établis dans une société existante, réaliste. Tu as des tas de références réelles, je suppose, pour que ça fonctionne complètement. Cette information que tu as été obligé de mener, ça t'a pris du temps. Et surtout, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que c'est aussi une part du travail amusante ?
Alors, ça m'a pris 11 années pour celui-ci. 11 ans de travail, ça a été une vraie joie. Il fallait même arriver à un moment se dire ça suffit, allez vas-y attaque, arrête d'accumuler et quand, ce que disait Jean-Philippe tout à l'heure est vrai, là on a envie d'inscrire dans le réel hein, sa fiction et c'est ce que j'ai fait là, mais j'ai précédé la parution du roman 4 ans avant qu'il paraisse, j'ai injecté les informations dans les fausses, donc dans Wikipédia, dans certains sites anglo-saxons, en participant à des forums, etc., j'ai injecté des informations pour, a posteriori, rendre crédible ce qui est dit dans le roman. Et par exemple, c'est l'histoire en fait de l'influence des contes de Mamerlois de l'époque des chasseurs de sorcières de la Boston puritaine jusque le macartisme en fait. C'est un livre un peu maudit conçu comme ça. Et l'édition du livre est spécifiée jusque la couverture, le nombre de pages, etc. Et j'ai injecté ça, par exemple, dans le Wikipédia anglais à Mother Goose. Et j'ai fait un tirage papier, je me suis dépêché. Il y a un vendeur de livres rares de Boston qui l'a mis en catalogue. Parce que, tout simplement, ils vont voir Wikipédia, ils repèrent les grands livres qu'il y a. Moi, j'avais injecté le faux dans une bibliographie sur la Mamerlois qui est vraie, il s'est dit wow, « Wow, un bouquin de 38 que personne ne trouve, visiblement, ça ferait bien dans mon catalogue, je suppose qu'il a réfléchi comme ça. » Et j'ai donc la page qui certifie que le livre existe.
On ne lui a jamais demandé de le vendre, ou de l'acheter plutôt ?
Je suppose qu'il vient de le vendre, mais qu'il préviendra dès qu'il en a un nouveau.
Il faut avoir un esprit un peu retors pour faire tout ça.
Ah bah, je crois qu'on l'a tous, là. Il faut retors, oui, pour tordre justement la réalité ou la fiction pour l'amener à autre chose. C'est une des conditions même de ce travail, je crois, retors. Oui, on l'est.
Est-ce que la serre aura son entrée Wikipédia comme Sherlock Holmes ou Hercule Poirot?
Alors, on l'espère, la serre a déjà son site web dans lequel il explique, il donne les données techniques de toutes les voitures, les recettes de cuisine de tout ce qu'il mange, absolument, où les personnages sont décrits, etc. La serre va bientôt avoir sa carte de visite, détective privé, avec... voilà, donc ça s'est fait. La serre a ses petits tampons au moment des dédicaces. Voilà, tout doucement, la serre prend corps, prend son existence. Et les adresses laserre@laserdetective.com, quand on envoie un mail, ça arrive effectivement. Alors on a décidé de se prendre chacun une adresse. Donc quand on écrira à la serre, ça arrivera chez Philippe Ward. Et Fazimel, ça arrivera chez moi. Donc... on pourra répondre. Donc c'est là où on se dit qu'on commence à devenir un peu fou, là.
Mais c'est une volonté d'accréditer, de rendre le plus réel possible les personnages que vous inventez. Stéphane, tu as aussi un site web.
Alors mon personnage a un profil Facebook. Voilà. Donc c'est un personnage de comment la décrire, la pauvre. c'est une scientifique bimbo, enfin c'est un peu un mélange de tout. Et mes lecteurs ont adoré ce personnage, donc je me dis tiens, je vais voir. Donc j'ai créé un profil Facebook spécial. Enfin,
avec des photos.
Oui. Mais très, comment dire, une photo de cheville, une photo, vous voyez, d'une épaule, on voit jamais. Parce que c'est un personnage très sexué comme ça. Et donc voilà, je lui ai donné une espèce d'identité, date de naissance, machin. Donc dans mon livre, elle est prof à Strasbourg, donc j'ai mis enseignante à Strasbourg. Et donc voilà, et donc parfois elle donne des petites nouvelles. Ah bonjour lui, c'est à Saint-Valentin, machin. Enfin je sais pas. Et donc du coup mes lecteurs qui m'écrivent, mais elle existe ou pas? Et donc du coup ça les perturbe un peu et je trouve ça assez rigolo en fait, un peu comme tu le disais.
Et Jean-Philippe, il a quelque chose du genre?
Non, je suis pas allé jusque là. Non, puisque en particulier mes personnages sont souvent déjà réels, quoi. C'est Lénine, Nostradamus, Nicolas II ou le préfet Lépine, voilà, c'est ce genre de personnage.
Mais tu pourrais faire une carte d'identité complète ou un historique sur Wikipédia.
En fait, elle existe déjà, cette carte
pour ta violette, je ne sais comment.
Victoire des Noyers.
Victoire des Noyers, oui. C'est drôle quand même, ça. Ça serait drôle d'avoir un Wikipédia là-dessus. Tu peux le faire.
Peut-être que ça se fera. Oui.
Mais en fait, j'ai l'impression, en vous entendre sourire à tout cela, que ça vous donne une jubilation encore plus extraordinaire de voir qu'en fin de compte, votre sens de la réalité fonctionne complètement jusqu'à abuser les gens.
Oui, parce que bon, de toute façon, le deal de départ entre un lecteur et un auteur, c'est d'être trompé. Ça impacte même de... On va prendre ça pour de vrai, mais à la limite, c'est de rappeler, puisque le lecteur rentre dans un livre en sachant que c'est faux, que c'est un mensonge, de lui rappeler que, justement, ce pacte de départ, il peut être inquiété, un peu déstabilisé, et de le ramener... En fait, c'est une sorte de supercherie au carré, de l'amener à se dire... est-ce que ce serait pas réel en fait? Et il y trouve du plaisir évidemment, parce que souvent, en plus l'habitude du lecteur a changé. Jusqu'à peu, il y avait que les enfants qui arrêtaient de dire un bouquin pour aller vérifier un mot dans un dictionnaire. Les petits font à 14 ans, non, mais les petits ils s'arrêtent, Jules Verne, bah, poum, ils vont voir biologie, pof, poisson, voilà, et ils reviennent au bouquin. Là, ça revient chez les adultes. Ça, on peut s'arrêter, aller vérifier sur un site ou quoi, un truc. Ça se nourrit de plus en plus. C'est pour ça qu'entre l'écrit et le numérique, il y a déjà des tas de passerelles qui sont, par exemple, d'ajouter de soi-même. Bon, enfin, je m'égare un peu, mais l'idée de ramener le lecteur à interroger le livre et s'interroger lui... c'est lui donner, j'espère, le plaisir que nous, on a eu à mélanger réel et fiction.
Je pense qu'il y a aussi le fait, effectivement, de jouer à tromper le lecteur. Mais moi, je pense à mon troisième roman qui est sur la commune de Paris, qui s'appelle Le crâne parfait de Lucien Bell, où il y a peut-être aussi le jeu inverse, qui est en fait, parce qu'en fait moi ce projet-là est venu de l'idée que je m'étais intéressé beaucoup à l'histoire de la Commune de Paris, et je me désolais un peu que tout le monde ait écrit la même histoire à propos de cet événement, et que justement en racontant une histoire différente, peut-être aussi aider peut-être le lecteur en lui disant mon histoire est fausse, mais est-ce que celle que tu connais est plus vraie? Et parce que tout le monde raconte tellement une histoire très, très lyrique et très romantique de la Commune de Paris. Et moi, donc, ce que je raconte toujours, c'est moi, l'événement qui est parti, duquel est parti ce projet, c'est qu'au milieu de la Commune de Paris, il y a eu des élections partielles parce qu'il y avait des sièges vacants à l'Assemblée de la Commune. Et donc, le peuple de Paris devait voter pour élire ses représentants, et il y a eu 80% d'abstention. Donc la Commune de Paris, c'est le peuple de Paris qui se... Voilà, c'est les seins nus sur la barricade, et il y en a 80% qui ne sont même pas allés voter. Et donc je me suis dit, tiens, je vais écrire l'histoire de ces 80%-là, quoi, des gens qui étaient à la Commune de Paris. Et si ça peut faire que le lecteur s'interroge un peu, ou, effectivement, moi, ce que je raconte, c'est en grande partie faux. Mais voilà, c'est pas plus faux que d'autres bouquins sur la Commune de Paris, ce qu'on nous raconte dans les tribunes politiques.
Est-ce que tes livres, Sylvie, sur avec cette mythologie égyptienne, enfin antique, est-ce que ça aide aussi des jeunes lecteurs, par exemple, à s'y retrouver parmi la mythologie et à reprendre goût à ces vieilles histoires?
Je pense que indéniablement oui, j'ai eu des réflexions dans ce sens, à savoir que l'univers, lui, il est vrai, donc tout ce qui est raconté dans les histoires de famille entre dieux, ça c'est réel. Alors on brode un peu, on insiste sur leur caractère, mais finalement ça donne envie de les connaître mieux. Et certains lecteurs m'ont dit avoir fait des recherches après, enfin être allé, avoir eu envie d'aller plus loin sur les sites archéologiques des temples qui, à l'heure actuelle, sont évidemment en ruine. Nous, ils sont encore debout, ils fonctionnent encore. Et d'avoir eu envie de chercher, d'aller plus loin. Je crois que notre passion pour ces époques-là, elle transparaît vraiment dans les romans. Et le site, justement, permet aussi, après, d'aller chercher plus loin, puisqu'on donne des pistes sur les dieux, leurs caractéristiques, etc. Et le site est pas mal consulté.
Stéphane, Talamus, c'est ton premier roman, et puis après, et maintenant, sur quoi vas-tu t'engager?
Le deuxième est presque fini.
Et c'est dans la même veine?
On retrouve le fameux personnage dont je vous parlais tout à l'heure, puisque mes lecteurs en ont fait un tel pataquès sur ce personnage, et que c'est un personnage avec lequel moi-même je me suis beaucoup amusé, donc il sera de retour. Donc plus dans l'univers médical, non. Mais ça sera toujours un thriller, mais avec cette liberté de ton dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais le côté angoissant et suspense, ouais. Mais dans un autre domaine que le cerveau, cette fois.
Jean-Philippe, quel est le plaisir pour un auteur de prendre des personnages historiques, genre Nostradamus, et de les mener un peu comme tu veux, tout en respectant la véracité de leur histoire?
Pour avouer la vérité, Je pense que personnellement, c'est vraiment un plaisir de contradiction, quoi. De vouloir dire l'inverse de ce que les autres disent, et quand tout le monde dit la même chose, j'ai envie de dire le contraire, quoi. Donc c'était vraiment ça qui a guidé le roman sur la Commune de Paris. Mais Nostradamus, c'est pareil. Quand j'ai commencé le roman sur Nostradamus, je me suis dit, voilà, tout le monde a écrit la même histoire sur Nostradamus. C'est toujours le même train-train des prophéties. Et même ma première idée, c'était d'écrire un roman sur Nostradamus qui parle jamais des prophéties. Et tout comme j'étais très fier que dans Le Chemin des Dieux, on parle jamais de sabre, parce que je voulais pas qu'on parle de sabre, parce que j'en ai marre qu'on parle de sabre quand on parle du Japon. Et donc voilà, et donc pareil pour Lénine dans le Chemin des Dieux, ça, voilà, personnellement, ça m'amuse de faire tomber les grands personnages.
C'est pas dans Le Chemin des Dieux, Lénine, c'est dans...
Donc, pardon, dans Les Démons de Paris. Merci de connaître mieux mes bouquins que moi. Mais c'était ça. Par exemple, quand je bossais sur Les Démons de Paris, il y avait une photo de Lénine qui avait attiré mon attention. C'était une photo où il était de face, il avait l'air un peu hagard, décoiffé. Et du coup, dans mon bouquin, la première fois qu'on le croise, il est comme ça, quoi. Il vient d'enlever sa casquette, du coup, il a les cheveux qui font une touffe. Hein. Et voilà, et je prends plaisir à ça, quoi, à prendre des grands personnages historiques, et parce qu'il devait être comme ça, quoi. C'est pas possible, il était tout le temps parfaitement coiffé, Lénine, et les mettre dans des situations, et donc dans Les Démons de Paris, par exemple, lui donner plutôt le mauvais rôle dans une situation rocambolesque qui ne met pas du tout à son honneur, quoi, à son avantage.
Xavier, ton prochain roman que tu es en train d'écrire ou sur lequel tu t'informes, je ne sais pas encore, met en scène encore deux écrivains réels. Raconte-nous.
Ah, bah ça c'est un régal. En fait, c'est marrant, je travaillais sur un roman qui était déjà bien engagé, j'avais dépassé la moitié, que j'ai arrêté pour commencer celui-ci tellement le sujet me plaisait. En fait, je suis parti dans le journal de Kafka. Il consacre une dizaine de pages à son voyage à Paris avec Max Brod. Et il raconte que... il faut savoir que Brod et Kafka sont très jeunes à l'époque. Ils sont dans leur vingtaine. Ils ont à peine publié. Et ils sont allés voir leur éditeur qui leur a dit « Bon, vu le peu d'argent que vous avez, si vous me publiez un guide de voyage... je vous paye les vacances. » Bon, tout ça est vrai. Et quand ils sont revenus, ils ont donné à l'éditeur une feuille, une simple feuille où il y avait marqué « pour rien ». Il y avait le nom de leur hôtel et le nom du restaurant. Et toujours vrai, 2 mois après, l'éditeur était en faillite. Et j'ai envie de raconter sur le mode Spirou et Fantasio comment deux très jeunes hommes qui sont pétris de mysticisme, de Prague... vont affronter les bouchers des Halles, les putes de Paris, et que ça va les décaper, et grâce à ça, et donc justement, là, c'est la fiction qui va faire qu'ils vont devenir les Kafka et Brod qu'on connaît. Voilà.
C'est jubilatoire.
Ah, ce sera mon premier livre comique. Genre, c'est difficile, hein, de faire. C'est plus facile de faire chouiner avec des violons, ça c'est fastoche. Hein. Donc c'est pas facile de faire rire, mais j'espère faire vraiment un hommage au slapstick, au comique gestuel de films muets, de faire un truc drôle, quoi. Spirou et Fantasio arrivent de Prague.
Oui, on voit mal pourtant Kafka et Max Brod dans un genre Max et Net.
Il paraît que Kafka était au bureau drôle. Alors, drôle selon les critères Kafka, hein. Il planquait des chapeaux, par exemple, on imagine mal. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est que Kafka allait voir des prostituées, etc., aimait manger. C'est un personnage qu'on connaît mal, en fait. Donc, justement, le fait que la fiction, que le réel soit peu connu, ça aussi fait qu'il n'y a pas de barrière et on peut jouer avec la fiction.
Le mélange des genres, Sylvie, ça peut être le futur de la littérature de genre.
J'ignore si ce sera le futur de la littérature de genre, mais je pense que mes petits camarades pourront donner leur avis. J'ai l'impression que par rapport à une certaine époque où on avait des frontières bien établies, en ce moment, de nombreux auteurs essaient de jouer avec les codes et que les frontières, par rapport à une certaine époque, sont un peu plus floues. Les choses s'interpénètrent un peu plus. Alors, peut-être qu'effectivement, le futur verra moins de frontières entre les genres.
Qu'en pensez-vous, Stéphane ?
Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de genres, paradoxalement, mais que les frontières sont de plus en plus poreuses, comme tu le disais. J'ai l'impression qu'on multiplie les genres, mais que, en fait, finalement, tout revient un peu au même, quoi. Enfin, pour simplifier un petit peu au maximum.
Mais en fait, on multiplie les genres aussi, c'est une question souvent de cases dans lesquelles on met des bouquins. C'est facile pour les éditeurs, c'est facile pour les libraires, c'est parfois facile pour les lecteurs aussi.
Moi, j'aimerais dire une chose beaucoup plus terre à terre, parce que mélanger les genres et tout, je l'ai toujours fait. Donc ce que tu dis, moi, arrive un peu après. Tant mieux si ça se fait, mais je l'ai toujours fait. Et d'un point de vue très épicier, c'est pas évident, justement, pour les éditeurs, pour les libraires. Faut accepter de mélanger les genres et d'assumer ce qui compte, c'est... comme disait Melville à Nathaniel Hawthorn, il avait dit un jour cette phrase très jolie « Ce que j'écris ne paiera pas, mais je ne sais pas faire autrement. » je ne sais pas écrire autrement. Et du moment qu'on fait ce qu'on veut, c'est ça qui compte. Hein.
Moi, mon éditeur m'a dit un jour qu'il appelait ça, et donc il a dit ça aussi en parlant de moi, malheureusement, des auteurs kamikazes, hein, il appelle ça, qui sont en fait justement les auteurs difficiles à marketer, parce qu'ils changent de genre d'un roman à l'autre, et parce que c'est vrai qu'on comprend effectivement les journalistes, les libraires, ne pouvoir dire de pote, il écrit tel type de livre,
oui, ou, au point, c'est tout. Ou même le libraire pour dire voilà, bon bah celui-là, je le mets dans la case fantasy ou je le mets au rayon polar.
Oui, c'est ça, exactement. Il y a un vrai problème physique, quoi, de savoir où on pose le livre. Et, enfin, je sais pas, et moi, personnellement, dans tous les domaines, que ce soit même du jeu vidéo, quand j'ai fini un jeu, j'ai envie de jouer un truc qui n'a rien à voir, j'ai pas envie de faire le même. Et pour les livres, c'est pareil. Quand je finis un livre, j'ai pas envie de relire le même juste derrière. Et donc, quand je l'écris, c'est pareil. Hein. J'ai envie d'écrire un truc qui n'a rien à voir.
Les Démons de Paris est réédité en folio. C'est en folio SF ?
Folio SF, ouais.
Alors, c'est pas du tout de la SF.
Mais bien sûr, bien sûr. Non, mais ça, enfin, je dirais, c'est un petit problème de la collection Folio SF, parce qu'elle est... Ils éditent beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec de la SF, mais c'est dans leur nom. C'est peut-être été mal choisi à l'époque.
Il est moins 7. Une question dans la salle, peut-être ? Et s'il n'y a pas de questions, je crois qu'on est arrivé au bout de ce débat. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci à Xavier Mauméjean, Jean-Philippe Depote, Stéphane Gérard et Sylvie Miller. Merci à ces faiseurs d'histoire de nous enchanter.
Merci à toi.
Merci. Au revoir.